La cloche du monastier sonnait juste 9 heures, lorsque j'en eus terminé avec ces ennuis préliminaires et descendis la colline à travers les prés communaux. Aussi longtemps que je demeurais en vue des fenêtres, un secret amour-propre et la peur de quelques défaites ridicules me retinrent de sourdes menées contre Modestine. Elle avançait d'un pas trébuchant sur ses 4 petits sabots avec une sobre délicatesse d'allure. De temps en temps, elle secouait les oreilles ou la queue, et elle paraissait si menue sous la charge qu'elle m'inspirait des craintes. Nous traversâmes le gué sans difficulté. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, elle était la docilité même. Puis, une fois sur l'autre bord, où la route commence son ascension à travers le bois de pin, je pris dans la main droite l'impie bâton du commandement, et avec une vigueur tremblante, j'en fis application au baudet. Modestine activa sa marche pendant peut-être 3 enjambées, puis retomba dans son premier menuet. Un autre coup eut le même résultat, et aussi le troisième. Je suis digne du nom d'anglais, et c'est violenter ma conscience que de porter rudement la main sur une personne du sexe. Je cessai donc, et j'examinai la bête de la tête aux pieds. Les pauvres genoux de l'ânesse tremblaient, et sa respiration était pénible. De toute évidence, elle ne pouvait marcher plus vite sur une colline. « Dieu m'interdit, pensais-je, de brutaliser cette innocente créature. Qu'elle aille de son pas et que je la suive patiemment. » Ce qu'était cette allure, aucune phrase ne serait capable de la décrire. C'était quelque chose de beaucoup plus lent qu'une marche, lorsque la marche est plus lente qu'une promenade. Elle me retenait chaque pied en suspens pendant un temps incroyablement long. En 5 minutes, elle épuisait le courage et provoquait une irritation dans tous les muscles de la jambe. Et pourtant, il me fallait me garder tout à proximité de l'âne et mesurer mon avance exactement sur la sienne. Si en effet je ralentissais de quelques mètres à l'arrière, ou si je la devançais de quelques mètres, Modestine s'arrêtait aussitôt et se mettait à brouter. L'idée que ce manège pouvait durer ainsi jusqu'à Alès me brisait quasiment le cœur. De tous les voyages imaginables, celui-ci promettait d'être fastidieux. Je m'efforçais de me répéter qu'il faisait une journée délicieuse. Je m'efforçais d'exorciser en fumant mes fâcheux présages. Mais la vision me restait sans cesse présente, de longues, longues routes au sommet des monts ou au creux des vallées, où 2 êtres se mouvaient d'une façon infinitésimale, pied à pied, 1 mètre à la minute, et comme les fantômes ensorcelés d'un cauchemar, sans se rapprocher jamais du terme. Sur ces entrefaites, voici que monta derrière nous un gros paysan, âgé peut-être d'une 40aine d'années, de mine ironique et bourrue, et vêtu de la veste verdâtre de la contrée. Il nous surprit cheminant côte à côte et s'arrêta pour regarder notre pitoyable avance.
« Votre baudet, dit-il, est très vieux. »
Je lui répondis que je ne le pensais pas.
« Alors, supposa-t-il, il vient de fort loin. »
Je lui répondis que nous venions seulement de quitter le monastier.
« Et vous marchez comme ça ? »
s'écria-t-il. Et rejetant la tête en arrière, il partit d'un long et cordial éclat de rire. Je le regardai, déjà prêt à demi de me sentir offensé, tant qu'il eut satisfait à son hilarité.
« Et alors ?»« Vous n'avez pas à avoir aucune pitié pour ces animaux, » fit-il.
Et arrachant une verge à un buisson, il se mit à enfouetter Modestine sur l'arrière-train en poussant un cri. La malheureuse redressa les oreilles et partit sans façon à vive allure, qu'elle garda sans ralentir, sans témoigner du moindre symptôme de détresse, aussi longtemps que le paysan resta près de nous. Son premier essoufflement et son tremblement n'avaient été, j'ai regret de le dire, que comédie.